Préface. Construire un avenir radieux. Par Cynthia Covey-Hayler. Ce que vous laissez derrière vous n'est pas ce qui est gravé dans les monuments de pierre, mais ce qui est tissé dans la vie des autres. Périclès. Mon père m'a appris que la meilleure façon de prédire son avenir est de le créer. Il a toujours eu la ferme intention de travailler et d'apporter sa contribution à la société aussi longtemps qu'il vivrait. Et il comptait bien vivre éternellement. Il a clairement fait comprendre à ses enfants et à ses proches que le mot « retraite » ne ferait jamais partie de son vocabulaire. Il mentait sans état d'âme sur son âge et grimaçait lorsque quelqu'un qualifiait de « troisième âge » la période de sa vie dans laquelle il était entré. Mon père avait de l'existence une approche épicurienne, carpe diem était son credo, qu'il a enseigné à ses 9 enfants. Chaque fois qu'une opportunité cruciale se présentait à nous, il ne manquait pas de citer l'exhortation de Thoreau à « sucer la moelle de la vie ». Cet état d'esprit lui permettait d'entretenir sa jeunesse et sa soif d'apprentissage. Nous avons pris conscience qu'il ne manquerait aucune occasion de profiter de son existence et de marquer celle des autres. Quand à l'âge de 25 ans, mon père a obtenu son diplôme de la Harvard Business School, son frère lui a demandé ce qu'il allait faire de sa vie. Papa lui a simplement répondu « Je veux libérer le potentiel humain ». Pendant les 55 années qui ont suivi sa profession de foi, il a poursuivi cet objectif partout dans le monde, grâce à ses ouvrages motivants et à son enseignement dynamique, généralement autour de ce qu'il nommait le « leadership basé sur les principes ». L'emblème de son entreprise était la boussole, qui soulignait l'importance d'aligner sa vie sur ce que mon père appelait « le vrai nord », un symbole des principes fondamentaux qui ne changent pas avec le temps. Il était convaincu que l'enseignement de ces principes immuables et universels, communs à tous les êtres humains, pouvait changer radicalement les individus et les organisations et les modifier de manière positive. C'était un visionnaire doté de grandes idées et de véritables idéaux. Il aimait apprendre, en questionnant sans relâche les personnes qu'il rencontrait. Il les interrogeait sur leur vie, leur travail, leur famille, leurs croyances, leurs passions, dans le seul but de s'enrichir à leur contact. Il faisait souvent appel aux lumières de son entourage pour obtenir des points de vue différents. Il écoutait attentivement les opinions de chacun et consultait n'importe qui comme si c'était un expert dans son domaine. Il prêtait l'oreille aux enseignants, chauffeurs de taxi, médecins, PDG, serveuses, politiciens, entrepreneurs, parents, voisins, ouvriers, professionnels et même aux chefs d'État. Et il leur accordait à tous le même intérêt et la même curiosité. Cette attitude agaçait parfois ma mère, qui levait les yeux au ciel en disant « Stéphane, pourquoi fais-tu toujours semblant de ne rien savoir quand tu parles à quelqu'un ?» Et lui de répondre comme si c'était évident « Sandra, je sais déjà ce que je sais, mais je veux savoir ce qu'ils savent, eux. » En tant qu'aînée de 9 enfants, j'ai grandi en écoutant mon père débattre d'idées basées sur les principes, que ce soit à la maison ou dans le cadre de ses nombreuses conférences devant des publics divers partout dans le monde. L'un de mes principes préférés était « priorité aux priorités », qui est également le titre de l'un de ses livres et l'une des 7 habitudes qu'il a définies. Mon père s'est escrimé à vivre selon ses propres préceptes, et pour lui, les relations familiales étaient absolument essentielles. Nous avions beau être 9 frères et sœurs, chacun d'entre nous se sentait considéré comme un membre important de la famille, et nous avions tous d'excellentes relations avec nos 2 parents. L'un de mes meilleurs souvenirs d'enfance remonte au jour de mes 12 ans. Quand papa m'a invité à l'accompagner quelques jours en voyage d'affaires à San Francisco. J'étais emballée et nous avons minutieusement planifié chaque minute du temps que nous allions pouvoir passer ensemble après ces conférences. Nous avions décidé qu'au terme de la première journée, nous irions faire le tour de la ville à bord des fameux trolleybus dont j'avais tellement entendu parler. Puis que nous irions écumer quelques boutiques chics afin de m'acheter des vêtements pour l'école. Comme nous étions tous les 2 férus de cuisine chinoise, nous avions prévu d'aller à Chinatown et de rentrer ensuite piquer une tête à l'hôtel avant la fermeture de la piscine. La soirée se clôturerait sur un sundae au chocolat chaud dégusté dans la chambre, puis nous irions nous coucher. Quand le grand soir est enfin arrivé, j'ai attendu mon père impatiemment à la sortie de sa conférence. Juste avant qu'il me rejoigne, j'ai vu l'un de ses vieux amis de la fac le héler avec enthousiasme. Tandis qu'ils échangeaient une accolade, je me suis remémoré les récits que m'avait fait mon père de toutes les grandes aventures et des bons moments qu'ils avaient vécus ensemble par le passé. « Stéphane, a dit l'homme, Ça fait au moins 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Loïs et moi voudrions t'inviter à dîner ce soir. Nous allons pouvoir parler du bon vieux temps. » Mon père lui a alors expliqué que je l'accompagnais pendant son déplacement et en regardant dans ma direction, son ami a lancé « Oh, mais ta fille peut se joindre à nous, bien sûr. On pourrait manger tous ensemble sur les quais. » Tous les plans grandioses que nous avions bâtis pour cette soirée spéciale s'effondraient d'un coup. Je voyais mon trolleybus s'éloigner sans nous et nos plats chinois laisser place à des fruits de mer que j'avais en horreur. Je me sentais trahie. Cependant, je me disais que mon père préférerait certainement passer du temps en compagnie d'un vieil ami plutôt qu'avec une gamine de 12 ans. Papa a passé un bras affectueux autour des épaules de l'homme. « Bob, je suis vraiment contente de te revoir, moi aussi. Ce dîner me fait bien envie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Cynthia et moi, on a prévu une soirée rien que tous les deux, n'est-ce pas, ma chérie ?» Il m'a adressé un clin d'œil, puis à ma stupéfaction, le trolleybus est réapparu. Je ne pouvais plus m'arrêter de sourire. Je n'arrivais pas à y croire, et je pense que son ami non plus. Mais nous n'avons pas pris le temps de nous en assurer. Nous avions déjà franchi la porte pour partir. « Mais papa, suis-je enfin parvenue à articuler, tu es sûr ?»« Je ne manquerai cette soirée avec toi pour rien au monde. De toute façon, tu préfères la cuisine chinoise, non ? Maintenant, sautons dans le trolley. » Avec le recul, cette expérience apparemment insignifiante reste représentative du caractère de mon père. Et elle a permis d'instaurer entre nous un niveau de confiance qui m'a marqué depuis lors. Il a enseigné et incarné l'idée que, dans les relations, les petites choses sont les grandes. Et chacun de mes frères et sœurs a vécu des expériences comparables à celles que j'ai connues à San Francisco, lors desquelles ils se sont sentis importants et appréciés. Cet amour et cette confiance étaient essentiels à notre estime de soi et ont joué un rôle majeur dans notre construction. Selon mon père, il nous fallait développer ce qu'il appelait la personne en 4 dimensions. Équilibrée physiquement, mentalement, socialement et spirituellement, car chacun de ces domaines est fondamental pour l'épanouissement. Chaque jour de son existence, il s'est consciencieusement appliqué à vivre de façon équilibrée en s'exerçant dans tous ces domaines, et il a appris aux autres à faire de même. Il écrivait « Nos plus grandes énergies devraient être affectées au développement de notre propre caractère, qui est souvent invisible pour les autres, telles les racines qui soutiennent les grands arbres. C'est en cultivant les racines qu'on commence à voir les fruits. » Bien que, comme chacun d'entre nous, il ait bataillé contre ses propres imperfections, il a constamment essayé de s'améliorer et de corriger ses défauts, plus que quiconque autour de moi. Nous savions que sa vie professionnelle était admirable, mais nous estimions qu'elle l'était bien peu en comparaison de celle qu'il menait dans la sphère privée de notre famille. Pendant des décennies, avec notre mère, il s'est activement employé à créer une riche culture familiale au sein de notre foyer et à stimuler notre potentiel comme il le faisait avec d'autres dans le cadre professionnel. Notre famille n'a jamais imaginé qu'un jour viendrait où il serait incapable d'aborder la vie avec cette volonté dont il avait toujours fait preuve. Et puis, en avril 2012, à l'âge de 79 ans, mon père a eu un accident de vélo. Il portait un casque, mais celui-ci était trop lâche, et le choc qu'il a reçu à la tête a provoqué une hémorragie cérébrale. Papa est resté à l'hôpital durant plusieurs semaines, et de retour à la maison, n'a plus jamais été le même. Après quelque temps, les saignements ont repris et ont fini par lui coûter la vie. Bien que son décès nous ait tous profondément affectés, nous savions que notre père était un homme très croyant. Il nous avait appris qu'un objectif divin se cache toujours derrière les événements de notre existence, y compris sa propre mort, lui qui nous a quittés beaucoup plus tôt que nous ne l'avions imaginé. En tant que famille, nous avons eu de la chance de pouvoir profiter d'un père aussi extraordinaire pendant tant d'années. Et nous sommes reconnaissants de l'amour inconditionnel et des conseils avisés qu'il nous a inlassablement prodigués. Nous éprouvons la même gratitude envers notre chère mère, la doyenne de toute la famille Covey, qui nous a quittés récemment elle aussi. Quelques années avant son décès, mon père m'a demandé de l'aider à écrire un nouveau livre consacré à ce que nous savons maintenant être son ultime grande idée. Il en était viscéralement imprégné. Il travaillait souvent simultanément sur plusieurs ouvrages et projets. Mais ce concept inédit en particulier m'intriguait et m'enthousiasmait à tel point que je tenais à être partie prenante de cette entreprise.